Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, deux géants prêts à en découdre par fin de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump a déterré la hache de guerre hier en menaçant de surtaxer les produits made in China. Pékin réplique ce matin, l'Europe elle pousse un ouf de soulagement. Les droits de douane sur l'acier qui devaient entrer en vigueur aujourd'hui sont renvoyés à plus tard. Nous irons à Pékin, à Bruxelles et puis on en parle à 8h20. Nicolas avec votre invité.
Pierre Moscovici, les commissaires européens aux affaires économiques et financières. Vous pourrez dialoguer avec lui, 01 45 24 7000. Vous avez, ami auditeur, la parole vers 8h30, 8h32.
Rendez-vous dans la rue le 19 avril. La CGT veut étendre le mouvement social à tous les secteurs de l'économie au lendemain des manifestations des cheminots et des fonctionnaires. Hier, ils étaient entre 300 000 et 500 000 à manifester. Même pas peur, glisse-t-on du côté du gouvernement. Où sont les preuves? Mâchoire serrée, regard noir, Nicolas Sarkozy réplique. Au lendemain de sa mise en examen dans l'affaire libyenne, interview hier soir à TF1, il jure qu'il n'a pas rencontré Ziad Takieddine en 2007, contrairement à ce qu'affirme l'homme d'affaires. Dans ce journal également, une cité HLM minée par les dealers. Le maire de Saint-Ouen, près de Paris, refuse de prendre de nouveaux locataires pour éviter de les mettre en danger, dit-il. Une fausse victime du Bataclan, condamnée à 4 ans et demi de prison. Et puis à la fin de ce journal, le centenaire de la disparition du compositeur Claude Debussy, avec la sortie de l'intégrale de ses œuvres et des concerts tout le week-end, offerts par Radio France. La réplique de Pékin n'aura pas tardé au lendemain des menaces de Donald Trump. La Chine a donc publié cette nuit une liste de produits américains qu'elle se dit prête à surtaxer à coups de droits de douane spectaculaires si les États-Unis lui font la guerre commerciale. Pékin face à Washington, les hostilités sont déclarées et la bataille se jouera donc à coups de milliards de dollars à Pékin. Dominique André.
Dans la liste des contre-mesures chinoises sont visés le vin, les fruits, la viande de porc, l'aluminium recyclé américain, mais pas le soja que la Chine importe en grande quantité. Ce n'est pas la guerre commerciale encore, mais un bras de fer qui est engagé. L'expert Ding Yifan pense que la Chine est en position de force dans ce dossier. Selon lui, les conséquences d'une guerre commerciale seraient plus graves aux États-Unis qu'en Chine.
Il y a eu déjà des protestations des associations industrielles américaines qui disent que si l'administration Trump décide de relever autant le droit de douane, ça va provoquer des paniques dans les industries aux États-Unis parce que ces entreprises américaines dépend fortement de l'importation pour maintenir leur production.
Guerre commerciale ou bataille pour le leadership mondial? Pour Ding Yifan, c'est la question de fond.
La Chine est en train de rattraper les États-Unis. Ils ont peur de perdre leur hégémonie dans ce système international. Il y a aussi le développement de la Chine dans les secteurs de pointe. Et c'est pour ça qu'ils commencent à prendre la Chine comme un adversaire, sinon un ennemi.
La Chine est un pays ami, insiste Donald Trump. Mais la Chine est devenue aussi un pays rival qui fait entendre sa voix de plus en plus et pas seulement dans le domaine commercial. Pékin, Dominique André, France Inter.
Les États-Unis prêts à se fâcher avec la Chine. Les bourses asiatiques ont d'ailleurs plongé cette nuit moins 4,5% à Tokyo. Mais les États-Unis qui en revanche baissent d'un ton face à l'Europe. Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Correspondant de France Inter à Bruxelles, c'est l'autre information de la nuit. Les États-Unis ont finalement décidé que l'acier européen ne sera pas surtaxé. La mesure devait entrer en vigueur aujourd'hui, dans quelques heures. Mais la Maison-Blanche a décidé de laisser jusqu'au mois de mai pour continuer à négocier.
Oui, la perspective d'une guerre commerciale transatlantique paraît s'éloigner et le soulagement des milieux d'affaires européens est évident. Du côté des politiques, on demeure évidemment plus prudent, car on a bien compris que cette relative embellie euro-américaine n'est qu'un répit, puisque l'exemption des surtaxes sur l'acier et sur l'aluminium européen importés aux États-Unis reste provisoire, le temps qu'aboutissent les négociations en cours entre la Commission européenne, au nom des 28 pays de l'UE, et le représentant américain pour le commerce. Et Washington a déjà fixé une date limite à ses pourparlers, c'est le 30 avril au plus tard qu'un accord devra avoir été trouvé. Et dans les milieux européens, on se montre préoccupé des compensations que la partie américaine pourrait prétendre exiger des Européens. Dans une intervention hier en marge du sommet, Emmanuel Macron a indirectement rappelé aux négociateurs européens de ne pas brader leur âme et d'éviter de trop concéder aux Américains d'avantages commerciaux qui ne seraient pas cohérents avec les engagements climatiques et sociaux que défend l'Union européenne.
Quentin Dickinson en direct de Bruxelles, merci à vous. En plus des 28 pays européens, 5 autres pays sont exemptés, eux aussi, parmi lesquels l'Australie, le Brésil ou encore la Corée du Sud.
8h05, pas le temps de souffler. Au lendemain des manifestations des cheminots et des fonctionnaires, la CGT marque fixe déjà un nouveau rendez-vous.
Le 19 avril, dans un peu moins d'un mois, mais cette fois ce sont tous les secteurs qui sont appelés à descendre dans la rue, ce qui fait déjà d'ailleurs tousser la CFDT, qui se demande s'il faut vraiment tout mélanger, mais aussi Force Ouvrière, dont le patron Jean-Claude Mailly affirme ne pas être au courant. Vous me l'apprenez, vient-il d'expliquer il y a quelques minutes à nos confrères de France Info. Hier, la mobilisation a été en demi-teinte, plutôt faible chez les fonctionnaires, dont à peine 1 sur 8 a cessé le travail, mais plus importante que prévu à la SNCF, avec plus d'un tiers des cheminots en grève. Et ce n'est sans doute qu'un début, Raphaël Ebenstein, car dans 11 jours, c'est la grève perlée qui s'annonce sur les rails.
Ils ont réussi leur pari. Les différents responsables syndicaux de la SNCF semblaient rassurés hier soir par la forte participation et par la détermination des cheminots venus de la France entière. Pour Éric Meyer, l'un des secrétaires fédéraux de Sudrail, c'est la preuve que la grève qui s'annonce à partir du 3 avril sera un succès.
Tous les retours qu'on a dans toutes les catégories professionnelles de la boîte nous laissent à penser qu'on se dirige vers un mouvement historique dans l'entreprise.
Mais la méthode choisie, 2 jours de grève tous les 5 jours, sera-t-elle bien acceptée par la base? Le mouvement peut-il plutôt finalement se transformer en grève reconductible quotidienne, comme le souhaiterait d'ailleurs Sudrail? Le secrétaire général de la CGT cheminot, Laurent Brun, se montre serein sur ce point.
Le débat qu'il va y avoir dans les assemblées, c'est pas qui est le plus dur ou qui est le moins dur, c'est est-ce qu'on est sur une course de vitesse ou est-ce qu'on est sur un marathon? Nous considérons que nous sommes sur un marathon parce que le processus des ordonnances, il va durer 3 mois. Voilà, et je ne doute pas que les cheminots soient sur cette logique également.
Et comme pour se préparer à ce marathon, Laurent Brun avait symboliquement convié hier tous les anciens responsables de la fédération CGT cheminot, dont Bernard Thibault, figure de la longue grève de l'hiver 95, comme un possible présage de ce qui attend le gouvernement.
Et hier, dans les cortèges, on a compté entre 300 000 et 500 000 manifestants. Alors Yael Gauz, qu'en dit-on à l'Élysée et au gouvernement? Est-ce qu'on estime que la mèche sociale est désormais allumée?
Réponse, mobilisation conforme à ce qu'on attendait, résume un proche d'Edouard Philippe, ni plus ni moins, mais prière de rester à l'écoute, sans arrogance, ni cheminot bashing. Voilà les consignes passées aux ministres et cadres de la majorité. Olivier Besancenot évoque un nouveau mai 68. À l'Élysée, on ne voit pas de coagulation poindre à l'horizon. Les revendications seraient trop sectorielles. Le seul risque, dit-on à Matignon, ce serait une coagulation politique comme en 1995, mais pour ça, il faudrait que Jean-Luc Mélenchon réussisse là où il a déjà échoué à l'automne. Or, l'exécutif estime qu'il y a encore du temps pour discuter d'ici au 3 avril. Humilité affichée, mais en coulisses, les marcheurs du premier cercle se disent rassurés par le spectacle de la gauche, ou plutôt que les gauches ont donné hier dans la rue. Journée ratée, ironise un cadre de La République En Marche, qui dit qu'il y avait la carpe CGT et Insoumis et le lapin PS et CFDT dans la rue. Improbable cohabitation. Le nouveau premier secrétaire du PS, Olivier Faure, malmené, sifflé. Commentaire d'un député proche du président. Les socialistes ne pouvaient pas faire pire pour se relancer.
Yael Gauz, chef du service politique de France Inter.
De la haine, de la boue et de la calomnie.
Les mots de Nicolas Sarkozy hier soir sur TF1. Visage fermé, mâchoire serrée. L'ancien président a tenté de contre-attaquer après sa mise en examen dans le dossier libyen.
Je pose une question devant les Français. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas la moindre preuve, le moindre document? C'est la France, c'est la fonction qui est en cause. On met un ancien président de la République au même niveau qu'une bande d'assassins et d'escrocs, quand même. On est dans un état de droit. Alors je vous dis une chose, je prends les choses très au sérieux, beaucoup plus que vous l'imaginez. Ça me prendra 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais je pourfendrai cette bande. Je ferai triompher mon honneur.
Nicolas Sarkozy qui jure qu'il n'a pas rencontré Ziad Takieddine depuis 2004, contrairement à ce qu'affirme son accusateur qui dit lui avoir remis une valise de billets en 2007 lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Bonjour Karine Audouin.
Bonjour Marc.
On connaît désormais la stratégie de défense de l'ancien président.
Oui, premier élément de défense, décrédibiliser les témoins de l'accusation, notamment l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, qui affirme avoir remis 5 millions d'euros d'argent libyen à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy en 2006-2007. C'est un escroc, un sinistre individu qui a fait de la prison, a dit hier soir Nicolas Sarkozy, affirmant ne pas l'avoir revu depuis 2003. Même chose pour les anciens dignitaires libyens qui corroborent ces déclarations. Des assassins, des criminels, des délinquants, selon l'ancien président de la République, qui rappelle avoir été moteur dans l'intervention contre la Libye de Kadhafi en 2011, omettant en revanche la réception en grande pompe du même Muammar Kadhafi. Kadhafi en décembre 2007. Deuxième élément de défense, il n'y a pas de preuves matérielles, pas de virement suspect sur un compte lui appartenant. Et enfin, troisième élément, c'est un complot politique. Une opération montée de toutes pièces, vient de dire chez nos confrères d'RTL son avocat, maître Thierry Herzog.
Dans cette interview, Corinne, Nicolas Sarkozy a aussi été interrogé sur certains de ses proches qu'il n'a d'ailleurs plus le droit de voir dans le cadre de son contrôle judiciaire, Brice Hortefeux, Claude Guéant. Il a semblé prendre un peu ses distances avec eux.
Oui, c'est une prise de distance subtile mais réelle. Brice Hortefeux, c'est mon ami depuis tant d'années, a rappelé l'ex-président. Je l'aime tendrement. S'il a eu des rapports avec tel ou tel, il s'en expliquera et je lui fais confiance. Brice Hortefeux, un très très proche de Ziad Takieddine avec qui il a passé notamment des vacances. Concernant Claude Guéant, son ex-directeur de cabinet, ex-ministre de l'Intérieur, eh bien c'est encore plus net. Monsieur Guéant était un collaborateur qui a travaillé d'une manière infatigable à mes côtés. S'il a des faits qui lui sont reprochés, il s'en expliquera. Pas en tant qu'ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, mais en tant que Claude Guéant lui-même, a dit l'ex-président, on peut difficilement être plus clair. Claude Guéant qui est, rappelons-le, lui aussi mis en examen dans le dossier libyen, notamment en raison d'un virement douteux de 500 000 euros sur son compte en mars 2008.
Merci Corinne Audouin. Et ce matin, l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Herzog, annonce qu'il va faire appel du contrôle judiciaire de l'ancien chef de l'État.
8h11, ses excuses à la barre n'auront pas suffi.
Une femme de 49 ans qui s'était fait passer pour une victime du Bataclan a été condamnée hier à 4 ans et demi de prison ferme. Elle avait touché 25 000 euros du fonds d'indemnisation des attentats, parvenant même à se faire embaucher par l'une des associations de victimes, Valentin Dunat.
Et c'est sans doute ça qui a choqué le plus hier après-midi à l'audience. L'avocat du fonds de garantie l'a dit avec ses mots à lui, cette femme a trompé son monde. Comme un détrousseur de cadavres, elle a violé la vie des morts. En effet, pour être crédible face aux policiers, quand elle a porté plainte quelques mois après les attentats, cette femme s'est servie de plusieurs histoires que certaines victimes avaient réellement vécu. Elle ira jusqu'à dire aux enquêteurs « J'étais au bar, j'ai entendu les balles qui sifflaient à mon oreille ». Hier après-midi, elle a regardé les victimes dans les yeux et s'est excusée. À la barre, elle a expliqué qu'à force de fréquenter les victimes, leurs proches, dans l'association, elle a fait un transfert. Elle s'est pris pour une victime. Mais pour les parties civiles, c'est l'argent, l'appât du gain qui l'a motivée. L'expert psychiatre qui l'a rencontrée explique que cette femme souffre de troubles identitaires. Pour être plus précis, de suppléance identitaire. Elle s'inventait plusieurs vies, styliste, manager, proche de victime. Et selon son avocate, les problèmes psychologiques de sa cliente n'ont pas été pris en compte par le tribunal.
Un maire qui refuse de prendre de nouveaux locataires dans ses HLM pour cause de trafic de drogue. Ça se passe à Saint-Ouen, en banlieue parisienne, dont le maire UDI, qui est par ailleurs président d'office HLM, ne sait plus comment lutter contre les dealers qui pourrissent la vie de certains de ses quartiers. Il ne veut plus mettre de locataires en danger, explique-t-il. Alors il préfère que les appartements restent inoccupés. Reportage à Saint-Ouen, Rémi Brancato.
Le parking de la cité et les deux tours de 16 étages sont quadrillés par les guetteurs. Des habitants acceptent de témoigner de leur quotidien.
Ils fument dans les escaliers, ils boitent dans les escaliers, ils sont chez eux. Moi j'ai assisté à un trafic devant mes yeux.
Résultat, les immeubles se dégradent, les ascenseurs sont régulièrement vandalisés et les entreprises d'entretien ne sont pas les bienvenues.
Le monsieur qui fait le ménage, il était agressé deux fois. Les entreprises pour nettoyer le sol, ils étaient agressés.
Alors avec des cafards, des pannes de chauffage, des habitants rêvent de partir.
Oh, j'ai peur pour mes enfants, je ne peux pas envoyer même mon enfant pour ramener une baguette. Je ne peux pas rester ici.
J'ai demandé à partir, il n'y a pas de réponse, on ne sait pas.
Mais certains craignent de ne rien trouver d'autre.
Je n'ai pas l'occasion ni les capacités financières d'aller vivre ailleurs. J'aime le quartier où je vis, j'aurais des regrets.
Les deux tours appartiennent à la Cémiso, le bailleur social de Saint-Ouen. Son président, c'est le maire, oui. William Delannoy, il ne loge plus aucun nouveau locataire ici et pour la première fois, il a écrit au préfet pour refuser le dossier d'une famille.
Dès que des gens me disent « Monsieur le maire, on n'en peut plus, on vit l'enfer », je les reloge ailleurs. Je suis en train de vider deux tours au fur et à mesure. C'est pas pour que la préfecture me redemande de reloger des gens dedans.
Son objectif, c'est de récupérer les tours pour restructurer le quartier, mais en attendant, certains habitants se sentent abandonnés. Rémi Brancato, France Bleu Paris, pour France Inter.
À l'étranger, trois petits zéros en moins sur tous les billets de banque du Venezuela. C'est la mesure que vient de décider le président Nicolas Maduro face à l'inflation qui mine l'économie de son pays. Le billet de 100 000 bolivars qui permet tout juste de s'acheter un café va se transformer en billet de 100 bolivars. Il suffisait d'y penser. Un sursis de 2 semaines pour Lula, la Cour suprême brésilienne qui se penchait sur le sort de l'ancien président condamné à 12 ans de prison, a reporté sa décision. Il reste libre en attendant. Et lors de l'audience, eh bien, c'est l'affaire Sarkozy qui s'est invitée au Brésil. L'avocat de Lula a évoqué les déboires judiciaires de l'ex-président français, estimant qu'il qu'il y a chez les juges, je cite, une certaine volupté à incarcérer des présidents de la République.
Et à 8h14, on termine en musique avec le centenaire de la mort de Debussy.
C'est l'occasion de redécouvrir les œuvres du compositeur français considéré comme iconoclaste à son époque. Pour l'occasion, Warner publie l'intégralité de son œuvre. Et c'est Stéphane Capron qui ouvre le coffret pour nous.
Debussy était un avant-gardiste pour ses contemporains. Avec Prélude à l'après-midi d'un faune, en 1894, il pose le premier jalon de la musique moderne. Ce morceau révolutionnera la danse un peu plus tard grâce à la chorégraphie de Nijinsky. Avec La Mer, Debussy renouvelle la forme symphonique et avec Péléas et Mélisande, l'opéra français sort des ornières de la tradition du drame lyrique. Debussy fait des merveilles avec tout ce qu'il touche alors qu'il n'était pas destiné à devenir compositeur. Denis Herlin est le spécialiste de Debussy dans le monde.
C'est un autodidacte quasiment. C'est même par hasard qu'on a détecté ses talents musicaux. On le destinait à une carrière de pianiste et finalement ça marche pas très bien. C'est un bon pianiste mais c'est pas un pianiste virtuose. Et c'est là tout d'un coup qu'il y a ce génie de la composition qui naît en lui. Après les études quand même au conservatoire, il faut le dire. Mais il a cette espèce d'esprit ouvert et complètement révolutionnaire.
Debussy s'est attaqué à presque toutes les formes musicales mais il n'a jamais composé de symphonie. Il puise son inspiration dans la littérature. Sa musique est enflammée comme avec ce morceau choisi par Denis Herlin, Fête, l'un des triptyques des Nocturnes.
Ça résume la force, la puissance de son œuvre, la liberté, le scintillement. C'est une espèce d'éclat de lumière, un jaillissement orchestral phénoménal.
Et ce week-end, Radio France fête Debussy avec des concerts à la Maison de la Radio, notamment demain, l'Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine. Concert diffusé sur France Musique et en direct vidéo sur francemusique.fr, c'est à 20h. Enfin, les sports, la Ligue des Champions féminines de football. Les Lyonnaises tenantes du titre se sont imposées hier soir 2-1 face au Barça en quart de finale aller. Le foot encore chez les hommes. Cette fois, les Bleus affrontent la Colombie. Ce soir, Nicolas, à Saint-Denis. C'est le premier des 5 matchs amicaux qui conduiront la France à la Coupe du Monde de foot cet été en Russie. Et puis du foot encore avec la fin de carrière américaine de Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois quitte son club de Manchester direction la Californie où il va rejoindre à 36 ans le Los Angeles Galaxy.
Merci Marc Fauvel.